grand reportage.
L'enjeu, il est que quasiment l'ensemble des batteries qui sont actuellement sur le marché vont devoir être recyclées pour pouvoir alimenter justement et répondre aux exigences européennes.
Elles sont encore minoritaires sur les routes, mais grignotent de plus en plus de parts de marché. Presque une voiture sur 10 vendue dans l'Union européenne est 100% électrique. Bruxelles souhaite interdire les ventes de véhicules à moteur essence et diesel à partir de 2035. Une transformation du parc qui entraîne son lot de défis techniques et d'interrogations. Où et comment les recharger? Comment gérer les besoins en électricité? Les ressources en matières premières seront-elles suffisantes? Voiture électrique, comment tenir ses promesses? C'est un grand reportage de Pauline Glaise.
Ça fait 2 jours que j'ai la voiture. Là, je découvre sur le tas comment ça se passe.
Le nez sur son téléphone, Michael Wong tente de comprendre comment recharger sa Fiat 500. Avec seulement 19% de batterie au compteur, il persévère.
J'ai pas encore le badge. Et du coup, là, je fais avec ma carte bleue. C'est sur une application. Après, on a différentes applications. Ça dépendra des bandes de recharge.
Pourquoi vous avez opté pour l'électrique?
J'avais un véhicule polluant. Je voulais m'en débarrasser. Bah, l'État, il donne pas mal d'aide. J'en ai profité. En fait, c'est surtout le bruit qui me gênait, moi, personnellement. Et la fumée aussi. Le point négatif, c'est au niveau des bornes de recharge. Si on n'a pas le badge, c'est compliqué, quoi.
Vous en trouvez assez, des bornes de recharge?
Moi, par exemple, j'habite au Kremlin-Bicêtre. Et là-bas, il n'y en a qu'une seule. Après, dans Paris, ça va, on peut en trouver facilement.
Donc là, vous flashez le QR code de la
borne. Et après, je vois ce qui se passe, mais là, il se passe pas grand-chose.
Et les câbles aussi, c'est compliqué, ils sont énormes.
Ok. Bon, ben, ça a l'air d'être bon, hein, ou pas. Il fallait que je la verrouille.
Là, vous êtes censé en avoir pour combien de temps pour charger?
Vu que c'est une charge rapide, je pense que j'en ai pour au moins 2 heures pour être à 100%, si tout se passe bien.
Et ça coûte combien?
Pour cette marque, c'est 3,50€ de l'heure.
Ça vous fait 7 euros pour un plein, en fait.
Voilà, c'est ça.
Mi-juillet, la France comptait près de 44 000 points publics de recharge. Encore loin de l'objectif des 100 000 fixé par le gouvernement pour fin 2021. Au salon Electric Road à Bordeaux, les entreprises commercialisant ces bornes foisonnent. Depuis quelque temps, les commandes déferlent sur la Sobemscan. Sébastien Hassani, directeur commercial dans la PME, vante les mérites de ces différents modèles, dont une borne mobile pour les chantiers ou une autre pour les lieux publics.
Il faut badger, on ouvre la porte, on se branche, derrière la porte revient, elle se verrouille. Il faut repasser le même badge pour déverrouiller et sortir la fiche.
Vous êtes prêt à relever le défi? Est-ce qu'il y a suffisamment de possibilités de production?
On est à plus de 50% par rapport à l'année dernière au niveau de la production. L'année prochaine, on va encore doubler et on s'adapte. On va sûrement déménager pour agrandir le lieu de fabrication et embaucher du personnel qualifié pour pouvoir répondre à la demande. Au départ, l'IRVE, enfin les bornes de recharge pour nous, ça devait être un complément. Et là, aujourd'hui, c'est en train de dépasser, enfin en termes de chiffres, on est à 60% IRVE.
Vous allez abandonner votre activité
Non, pas du tout, non. Ça va compléter l'IRVE, voilà. C'est effet inverse aujourd'hui.
Plus de bornes pour plus de véhicules électriques, cela devrait aller de pair avec une augmentation de la demande en électricité. Alors le réseau tiendra-t-il le coup? Une question souvent posée en France à Gilles Rollet, directeur régional d'Enedis, entreprise chargée du réseau de distribution d'électricité.
La question, elle est de deux ordres. Est-ce qu'on a l'énergie? Et là, la réponse est oui, puisque les estimations qui sont faites sur la consommation de ces 15 millions de véhicules électriques, c'est de l'ordre de 10% maximum de la consommation d'électricité annuelle aujourd'hui en France. Et donc, le système est en capacité, sans difficulté majeure, de l'assurer. Après, il y a une deuxième question qui se pose, c'est la question de la puissance. Puisqu'effectivement, souvent on se dit, pour se faire peur, si on a 15 millions de véhicules électriques qui veulent se charger tous en même temps à 19h le soir, bah effectivement ça peut faire un appel de puissance assez important. Et là effectivement on se dit que ça serait compliqué à faire, que ça nécessiterait beaucoup de moyens de production pour un temps très court, et souvent ce sont des moyens de production qui seraient polluants, hein, des moyens rapides, style central à gaz ou etc. C'est pas ce qui va se passer, et c'est surtout pas ce qui va se passer si on met en place un peu de pilotage de la recharge, et notamment des pilotages simples, comme on les connaît aujourd'hui avec les chauffe-eau, par exemple, hein, qui permettent de décaler à des périodes de la journée plus favorables.
Le pilotage peut aller encore plus loin. La technologie véhicule to grid, littéralement véhicule vers réseau, retient l'attention, entre autres de Didier Bloch, chef de laboratoire au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
On pensait que la durée de vie des batteries serait limitée, comme pour un téléphone mobile, à environ 500 cycles.
On est en train de s'apercevoir que la durée de vie des batteries, en fait, sous réserve qu'elles soient bien gérées, sous réserve que la qualité soit suffisante, sera bien supérieure à celle-là, probablement voisine dans les mois et les années qui viennent de l'ordre de 2000 cycles charge-décharge. 2000 cycles charge-décharge, si on prend l'exemple d'une Zoé, ça fait 800 000 km. Et comme je n'ai pas envie de garder les mêmes véhicules toute ma vie, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je peux utiliser mon véhicule pendant 750 cycles pour faire 300 000 km. Je le garde 23 ans. Et puis, il me reste 1250 cycles. Qu'est-ce que je peux en faire? Je peux utiliser mon véhicule chaque fois qu'il est garé pour rendre des services au réseau qui vont permettre de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le premier auquel on peut penser, c'est l'écrêtage des heures de pointe. Le soir, quand on rentre du travail et qu'on allume le chauffage, le four, il y a le pic de demande de 19h. Le fait d'utiliser les véhicules stationnés pour alimenter le réseau et le soutenir pendant ces heures de pointe permettrait de ne plus avoir besoin, par exemple, de construire et de lancer des centrales au gaz. Et donc permettrait de réduire la consommation de combustibles fossiles.
La voiture électrique pourrait donc apporter deux solutions en une. Mais qu'en est-il du bilan carbone du véhicule? L'avantage sur le thermique dépend en partie du nombre de kilomètres roulés. Le bilan est lié à plusieurs autres facteurs. Fabien Perdu, lui aussi chercheur au CEA.
Si on considère que la production de la batterie, comme elle est faite aujourd'hui en Asie, émet à peu près 100 kg de CO2 par kWh, sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule, on peut considérer en France, avec notre électricité qui est très peu carbonée, que la voiture émet 3 à 4 fois moins de CO2 que son équivalent thermique. En Europe, dans la quasi-totalité des pays, il y a un avantage à la voiture électrique, mais qui est quand même sensiblement moins net, qui est peut-être de quelques dizaines de pourcents, par exemple en Allemagne.
Là, aujourd'hui, j'ai quand même vu surtout de grosses voitures.
Ah oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est le problème de l'orientation qu'a pris l'industrie automobile aujourd'hui, qui est effectivement faire des grosses voitures avec des gros moteurs et des grosses batteries. Je pense que ces batteries sont précieuses par le coût, les émissions et les quantités de matière qu'il a fallu pour leur fabrication. On devrait rester sobre.
La gestion des métaux est l'un des grands enjeux de la mobilité électrique.
Les minerais, il faut bien distinguer les réserves des ressources. Donc les réserves, c'est ce qu'on a démontré et qu'on sait extraire aujourd'hui avec nos technologies et au coût actuel. Et les ressources, c'est ce qu'il y a vraiment dans la croûte terrestre. Les réserves sont du même ordre de grandeur que ce dont on aurait besoin pour électrifier l'ensemble du parc mondial avec, en remplaçant toutes les voitures par des Zoé, par exemple. On peut commencer à avoir des tensions sur les matériaux si on a un parc automobile qui grandit démesurément ou avec des batteries qui grandissent démesurément. Et d'autre part, il faut regarder les flux de production. D'ici avant 2030, on risque d'avoir des tensions sur le nickel simplement parce que les mines ne s'ouvrent pas suffisamment rapidement.
La question à se poser, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de la batterie une fois qu'on ne l'utilise plus pour son usage premier.
La batterie représente actuellement jusqu'à la moitié du prix d'une voiture. Elle constitue donc un enjeu économique stratégique. Au cours de la conférence d'Electric Road consacrée aux métaux, Nicolas Verdier, de la direction de la stratégie du groupe minier Eramet, souligne que l'accès aux ressources n'est que la première étape.
Le groupe Eramet a pu sécuriser des gisements. La deuxième étape, c'est de les exploiter et ensuite de transformer ces minerais pour alimenter les chaînes de valeur européenne, nord-américaine ou asiatique, en fonction de ce que les clients demandent. Si on regarde le besoin européen en métaux, l'important, ce sera que les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles se mobilisent pour sécuriser à travers ces compagnies minières suffisamment de projets. Il y a une prise de conscience générale, je dirais, des acteurs de l'aval, des constructeurs automobiles, sur le fait qu'il faut sécuriser ces chaînes d'approvisionnement. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, je ne sais pas vous dire s'il y a suffisamment de projets sécurisés. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on commence à avoir suffisamment de discussions avec ces donneurs d'ordre pour qu'on puisse envisager, nous, de développer des projets pour répondre à leurs demandes.
Au fur et à mesure, se crée aussi ce que certains appellent une mine urbaine. Direction Athis-Mons, en région parisienne, la casse automobile de Fabrice Henriot tâtonne encore pour le recyclage des batteries des véhicules électriques ou hybrides.
Sur ce parc dans lequel on entre, là, vous allez voir, il y a 99% de voitures thermiques, mais on a un petit parc de voitures électriques et on les isole par rapport aux autres. Parce que comme on manque un peu d'infos sur les risques d'incendie, départ de feu, et qu'on entend beaucoup de feux en ce moment dans les casses automobiles, on suspecte que ça vient pas mal des batteries.
On arrive à les repérer assez facilement, même si on n'est pas expert en automobile, puisque vous avez mis des affichages sur toutes les voitures électriques, ou hybrides en tout cas.
Oui, nous c'est vraiment la priorité absolue pour nous, c'est la sécurité de nos salariés. On va aller de l'autre côté, donc à l'endroit où on a stocké les batteries.
Tout au bout de la casse, et ce n'est pas pour rien.
Aujourd'hui, il y a deux sociétés en France qui sont la SNAM et Eurodieuse, qui proposent le recyclage des batteries. Mais c'est là où on se heurte sur le premier problème, c'est qu'on n'a pas d'informations très précises sur chaque type de batterie, où doit aller la batterie. Donc aujourd'hui, on stocke des batteries sans savoir non plus exactement comment il faut les stocker. C'est pour ça qu'avec ma fédération, FEDEREC, la Fédération des entreprises du recyclage, on milite beaucoup auprès des constructeurs automobiles pour obtenir la caractérisation des batteries.
Pour l'instant, est-ce que vous avez déjà réussi à faire partir une batterie de voiture électrique vers un recycleur?
Oui, on a quand même réussi avec la SNAM à faire partir 5-6 batteries. Il y a de cela plusieurs mois déjà. Aujourd'hui, nous sommes toujours en attente de demandes que nous avons réalisées au mois de février l'année dernière et on a un stock de batteries qui reste sur place puisqu'on ne sait pas quoi en faire. Par mesure de sécurité, on a fait un protocole d'accord avec les pompiers qui nous ont demandé de les isoler le plus loin possible de tout bâtiment. Ils nous ont déjà prévenu qu'ils n'arriveraient probablement pas à les éteindre.
Voilà, on est sur le lieu de stockage des batteries électriques. Oui, c'est pas très impressionnant. Hein. C'est des batteries sur des palettes, emballées dans du film plastique, toujours avec notre petit signe danger et des barrières qui annoncent danger électrique, ne pas approcher. Mais voilà, elles ne bougent pas beaucoup, là. Donc j'ai rencontré récemment le patron de la SNAM, qui justement m'a dit qu'il allait s'en occuper.
Cette difficulté à faire partir les batteries n'est sans doute pas étrangère au nombre encore limité de produits à disposition. Un problème de taille critique, en somme. Elles ont pourtant de la valeur. Fabrice Henriot espère donc à terme en tirer profit via la filière recyclage ou avant ça, via le réemploi de ses batteries. Le directeur d'Alocas Auto craint que sa filière soit en concurrence avec les constructeurs eux-mêmes, à l'instar de Renault. Au salon de l'automobile de Munich, Alain Ballu, vice-président de Mobilize, une entreprise de la marque aux losanges, ne tarit pas d'éloges sur les super pouvoirs de la batterie. Après la voiture, elle peut vivre une seconde vie, car elle garde en général un niveau de charge important.
En moyenne, on va dire 70%. Et ces batteries, eh bien, à 70% de charge, elles intéressent tout un tas d'usages. Il faut les reconditionner. Et vous avez derrière vous un petit stand qui vous montre un des usages où on démonte les modules des batteries, les unités, on les restructure. Et en fait, il y a tout un tas d'usages. Il y en a un magique, là, vous avez une fois de plus sous les yeux sur le stand, qui est quelque chose qui permet de tout simplement amener ce qui est aujourd'hui des solutions carbonées de petits générateurs de puissance qu'on trouve un peu partout sur les chantiers, sur les usages où il n'y a pas de courant accessible. Et en fait, là-bas, on a nos batteries. On va fabriquer ça à Flins dans notre usine. Il y a une solution sur laquelle on travaille de triporteur qui permet d'avoir de nouveau des batteries de Kangoo recyclées avec une certaine modularité qui permettent de mettre sur ce petit triporteur une charge suffisante pour assurer d'un côté la mobilité, mais aussi des usages de frigo qu'il peut y avoir derrière.
À la fin de la ou des vies de la batterie, passage par la case recyclage. Un recyclage qui suscite des intérêts. Le chinois Catel vient d'annoncer la construction d'une usine dans le Hubei. La start-up suédoise Northvolt va lancer la sienne l'an prochain. En France, plusieurs acteurs mènent des projets pilotes. C'est le cas d'Eramet dans son centre d'innovation. Sophie Lebouil, chef de projet en recherche et développement, explique comment le groupe minier entend procéder.
Nous, on va s'adresser au recyclage en boucle fermée, c'est-à-dire qu'à partir d'une batterie, on veut reproduire des métaux pour fabriquer de nouvelles batteries. Donc comment on recycle une batterie ? Il faut imaginer que c'est une boîte à l'intérieur de laquelle on a un empilement de plusieurs électrodes qui sont séparées par des feuillets en plastique. Et ces électrodes sont recouvertes de matériaux d'électrodes, qui est une poudre noire qu'on appelle la black mass. Cette black mass, elle contient tous les éléments stratégiques des batteries, le nickel, le cobalt, le manganèse, le lithium. Et pour y accéder, on va commencer par broyer les batteries.
Et la méthode a été testée dans une sorte de mini-usine.
Donc ici, vous entrez dans la halle de minéralurgie.
Donc on va pouvoir aller voir le broyeur si vous voulez. Donc voilà, on s'arrête à mi-chemin. Les batteries sont introduites plus haut. De là, vous passez donc des cellules et des modules qui font la taille, on va dire, hors de grandeur de la boîte à chaussures. Et quand vous sortez du broyeur, vous avez des sortes de copeaux qui sont plutôt de l'ordre du centimètre.
Après une étape de séchage pour retirer les solvants, les matériaux commencent à être triés par des procédés mécaniques, des toboggans en spirale, une soufflerie ou une tamiseuse. Et une fois la black mass récupérée, reste à isoler chaque composant de cette poudre noire. Eramet mise pour cela sur l'hydrométallurgie. L'ensemble est rendu soluble, puis chaque métal est extrait grâce à une solution chimique spécifique.
Vous êtes dans la halle de pilotage des procédés hydrométallurgiques.
Quel pourcentage de batteries vous réussissez à recycler ?
Aujourd'hui, la réglementation européenne impose un recyclage à 50% en poids d'une batterie. Demain, la proposition de la Commission européenne est que ce pourcentage soit élevé à 70%. On est bien au-delà, déjà nous, avec nos procédés, de cette future cible qui est en cours de discussion. Et par ailleurs, ce que propose la Commission européenne, c'est d'avoir aussi une cible de récupération pour les métaux stratégiques, y compris le lithium. Et c'est là où notre projet par voie hydrométallurgique permet de respecter cette future réglementation. C'est que si on utilisait une voie pyrométallurgique comme c'est fait aujourd'hui en Amérique du Nord, on perd le lithium. Alors que nous, on valorise le lithium à près de 90%.
Mesdames, messieurs, je vous invite à vous rendre en salle E pour une conférence qui va démarrer dans 5 minutes.
La Commission européenne souhaite aussi imposer aux producteurs d'intégrer un minimum de matières recyclées dans les batteries qui seront fabriquées à partir de 2030. 12% de cobalt, 4% de nickel et de lithium. Des chiffres qui ne sont pas si modestes qu'il n'y paraît, estime Christophe Couénon du groupe de chimie Solvay, lui aussi sur les rangs du recyclage des batteries.
Dans le même temps, il faut bien comprendre qu'en 2030, il y aura un très grand volume de batteries qui seront fabriquées en Europe, mais il y aura très peu de batteries qui seront en fin de vie, puisque ce seront les batteries qu'on utilise aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, l'enjeu, il est que quasiment l'ensemble des batteries qui sont actuellement sur le marché vont devoir être recyclées pour pouvoir alimenter justement et répondre aux exigences européennes. Il y a une autre source qui est que quand les fabricants de batteries vont produire des batteries, malheureusement, toutes les batteries ne sont pas bonnes et donc les batteries pas bonnes vont rentrer aussi dans ce cercle de recyclage. Une filière technologique comme Solvay, on est assez confiant sur le fait d'arriver à transformer l'ensemble des volumes pour pouvoir les mettre au niveau du grade batterie. L'enjeu principal qu'on va avoir, c'est la capacité de collecte et le fait qu'il n'y ait pas de fuite. Le risque que l'on pourrait avoir, c'est que les volumes de batteries partent dans d'autres pays qui cherchent aussi à accéder à ces métaux. Et donc là, effectivement, la réglementation doit être forte pour protéger un petit peu le flux des matières.
Alors, le recyclage est-il le seul moyen de gérer les besoins en métaux ? Fabien Perdu, du CEA, y voit une bonne partie de la solution, pas toute la solution.
Je pense qu'il faut aussi se concentrer sur la sobriété, c'est-à-dire avoir la batterie juste nécessaire pour l'usage qu'on doit en faire. Notamment, les véhicules particuliers ont un taux d'utilisation où la plupart des trajets font moins de 50 km, ce qui nécessite des toutes petites batteries finalement. Une minorité de trajets servent à faire des longs parcours pour aller en vacances par exemple. Et donc, ce serait intéressant de trouver des solutions complémentaires à la batterie pour faire ces longs trajets.
C'est quoi la solution ?
Alors là, il y a un certain nombre de solutions, plus ou moins exotiques. La première, c'est l'hybridation entre la batterie qui va faire les petits trajets et puis un moteur thermique pour faire les longs trajets. Il y a des solutions d'emporter une remorque avec une grosse batterie ou une autre source d'électricité le jour où je vais aller en vacances. Et puis il y a une solution qui me paraît particulièrement intéressante, c'est celle de la route électrique. C'est-à-dire qu'on apporte l'électricité le long des routes principales et des autoroutes pour que la voiture sur sa batterie n'ait qu'à rejoindre ce réseau-là, fasse l'ensemble de ses kilomètres du long trajet sur le réseau électrifié. Il y a trois technologies essentiellement de transfert d'énergie entre la route et la voiture, soit l'induction, soit les caténaires, comme le train, soit des rails au sol, comme ce qu'on a pour le tram de Bordeaux, par exemple.
Différentes technologies de transfert d'énergie sont déjà à l'essai dans plusieurs pays. S'ils sont concluants, l'enjeu sera ensuite pour des nations voisines de s'entendre sur une solution commune.
Voiture électrique, comment tenir ses promesses ? Un grand reportage de Paul Inglaise et Anne Verdaguet. Réalisation Eva Piedel.